Alors, nous revenons à l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes au chapitre 5, nous ne prendrons que les 11 premiers versets.
L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des textes cités sur cette cassette.
Nous avons en somme ici les suites ou les conséquences ou les lendemains de la justification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, bien sûr, mais cela suppose, cela est dit, à des gens qui ont eu la justification. Et si vous n'ajoutez pas la sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. Alors, nous avons donc ici l'apôtre Paul s'empresse dans cet épître qui est un véritable traité de doctrine, de la saine doctrine. Il s'empresse tout de suite de montrer les lendemains de la justification par la foi. Cette justification, qui est aussi un affranchissement du joug du péché et une régénération, doit donc avoir des lendemains qui durent. Elle est, en effet, elle, la source de toutes les grâces que le Seigneur nous destine. Il ne peut pas destiner les grâces et grâces et grâces qui sont variées, nous dit l'Écriture, il ne peut pas les destiner à des gens qui ne sont pas justifiés. Mais ceux qui sont justifiés, il leur destine des grâces. Et la première des grâces, celle que ici l'apôtre veut mettre en évidence, c'est la paix. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous avons la paix avec Dieu. Cette grâce, c'est donc la paix avec Dieu. Nous avons eu accès à la paix avec Dieu. Nous allons nous arrêter un petit moment sur la paix dont il s'agit ici, puisque l'occasion s'offre. L'apôtre a parlé précédemment, dans cet épître, de l'état de péché, de la condamnation qui en résulte, et de la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Immanquablement, l'homme qui vit avec son péché, parce qu'il ne vient pas à Jésus-Christ, cet homme ne peut pas avoir la paix profonde en lui, bien sûr. Car, même s'il écarte Dieu de sa pensée, il est agité en son âme, il est soumis à des angoisses, à des peurs, à toutes sortes d'autres mouvements, et les psychologues, les psychanalystes, tous ceux qui font de la psychotechnie, tous ceux-là savent très bien quelles sont les agitations de toutes sortes. Alors on essaie d'y trouver remède par voie rationnelle, et en général, on aboutit à des résultats absolument opposés. Il y a là, n'est-ce pas, quelque chose qui échappera toujours à la main du praticien. Il y a quelque chose là qui ne peut être réglé que par la foi. Il faut donc la paix de Dieu. La justification, c'est-à-dire en somme le pardon, si vous voulez, le pardon qui écarte tous les péchés, qui fait que Dieu ne s'en souvient plus, ne veut plus s'en souvenir, cette justification qui est donc une justice placée sur l'homme, elle apporte une réconciliation, c'est-à-dire un lien avec Dieu par Jésus-Christ. La réconciliation, quand on est réconcilié avec quelqu'un, alors on est à nouveau ami avec ce quelqu'un, n'est-ce pas ? Il y a une réconciliation, par conséquent, un lien avec Dieu par Jésus-Christ, et en raison de ce lien, il y a des relations devenues harmonieuses. Il y a une harmonie entre le Créateur et sa créature. on va se comprendre, parce que on s'aime, comme le note ici dans le verset 5, notre apôtre, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alors celui qui est justifié dispose de l'amour de Dieu. Alors on s'aime, donc on se comprend, on s'entend. On a la pensée de Christ, nous dit l'apôtre aussi par ailleurs. Et c'est de cette harmonie retrouvée que découle la paix. Cette paix, la paix dont il s'agit, est un état spirituel nouveau. C'est pas seulement une tranquillité du fait que les agitations cessent, les motifs d'agitation cessent. Non, c'est un état spirituel. Il faut bien comprendre que c'est un état spirituel et qui lui-même est dépendant d'un état de perfection. Un état spirituel nouveau et qui ne peut apparaître que lorsque Dieu a fait œuvre de justification par sa grâce. Donc, la paix naît de la grâce de Dieu, la grâce qui fait d'un homme un juste. Nous allons parler un petit peu de cette paix. Remarquons ceci, c'est que lorsqu'on lit l'Écriture, médite l'Écriture à ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a, bien sûr, il s'agit là essentiellement d'une paix intérieure, mais qu'il y a un dépassement de cette paix, ou plutôt, si vous voulez, un pendant à cette paix, il y a une paix extérieure. Et la paix extérieure apparaît comme le signe de la paix intérieure. Nous allons voir quelques textes. Psaume 122, verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein, à cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Ici, le psalmiste a cette pensée, il exprime cette pensée que la paix a pour lieu d'apparition Jérusalem. C'est Jérusalem, et pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là qu'a lieu le grand sacrifice qui peut justifier tous les hommes. Et nous voyons actuellement que Jérusalem est loin d'être un sujet de paix pour le monde, parce que le monde est révolté, bien sûr, et ce qui est un sujet de paix pour les croyants est un sujet de tourment pour les autres. Et en effet, Jérusalem est une pierre pesante, dit le prophète, pour les nations. Nous allons voir maintenant dans Ésaïe. Ésaïe 54. Vous savez que le livre d'Ésaïe est un livre d'une grande richesse. Ésaïe 54, verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est évidemment un passage d'une grande beauté. Nous en avons emprunté quelque chose pour un chant, mais il ne s'agit pas de chanter seulement ces choses, il faut les lire vraiment là, comme parole de Dieu. Et ce qui est dit ici à Israël, car la première destination de cette parole est encore ici le peuple d'Israël, mais ce qui est dit à Israël l'est dit, bien sûr, à l'Église, et l'est dit à chaque homme qui, selon le dessein de Dieu, vient à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face. Le pécheur est celui-là. Il ne voit plus la face de Dieu. Dieu lui dérobe sa face. Mais, alors, ici, nous voyons que le Seigneur ne veut donner à son racheté, veut le faire entrer dans une alliance de paix qui ne chancellera pas. Il n'y aura un seul peuple et il y aura une seule bergerie. Pour l'instant, il y a donc deux bergeries, n'est-ce pas, si on peut s'exprimer ainsi, mais l'Église, elle, se prépare au royaume de Dieu. Et par conséquent, il faut que dans l'Église, déjà, l'alliance éternelle de paix soit réalisée, est déjà sa réalité. Bien sûr, à travers pas mal de difficultés et d'épreuves. Mais cependant, c'est le vœu du Seigneur que maintenant, dans l'Église, l'alliance de paix soit déjà connue et produise déjà son fruit. Ainsi, la paix est toujours ce qui résulte de l'harmonie retrouvée entre Dieu et les hommes. Rappelez-vous ceci, c'est que Melchisédek, dont il est question dans la Genèse, qui a rencontré Abraham et dont il est question aussi dans l'Épître aux Hébreux, Melchisédek, qui n'est pas un personnage humain, ne tombons pas dans cette sottise que d'aucuns ont répandue de faire de Melchisédek un des rois de la vallée de Sittim. C'est renversant, ça, c'est un personnage. C'est une théophanie, si vous voulez, disons que c'est une apparition divine, Melchisédek. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'avant l'incarnation, il va venir devant Abraham la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas apparaître à ce moment-là, l'incarnation est pour plus tard, mais là, Melchisédek est rendu semblable, et il vient faire une sainte scène. Le pain et le vin avec Abraham pour sceller le serment. Enfin, ça, c'est quelque chose tout de même de caractéristique. Ce sont des choses qui doivent nous réjouir, cela. Alors, Melchisédek, lui, est roi de Salem, et qui veut dire roi de paix. Il est roi de paix. Et Jésus-Christ est roi de paix aussi. D'ailleurs, quels sont les deux termes qui conviennent tant à Melchisédek qu'à Jésus-Christ, ce sont les deux termes de paix et de justice. Justice et paix. Roi de justice, roi de paix. Voilà les deux termes. Il n'y en a pas d'autres, ces deux termes-là, qui sont attachés à Melchisédek autant qu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ est vu aussi comme le prince de la paix. Jésus-Christ s'est référé aussi à Salomon, dont le nom signifie le paisible, le pacifique. C'était un roi, en effet, qui a régné dans la paix, puisque la guerre a été au compte du règne de David, son père. Il a régné à Jérusalem, qui est le lieu de paix, le séjour tranquille. Pourquoi Jérusalem est-elle appelée comme cela, par exemple encore dans Ésaïe, chapitre 33, verset 20, 33 et 20, « Regarde, Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. » Avez-vous médité ce verset ? C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières. Mais c'est un langage spirituel, ça. Où ne pénètre point de navire, Aram, et que ne traverse aucun grand vaisseau, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Yahvé, Yéhoshua, Yahvé, l'Éternel qui sauve, tes cordages sont relâchés. Il ne serre plus le pied du mât et ne tend plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin, les boiteux même prennent part au pillage, aucun habitant ne dit « je suis malade », le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Mais c'est en harmonie parfaite avec notre chapitre 5 des Hébreux, il est... Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alors, il le recevra, effectivement, lorsqu'il y aura cette conversion collective du chapitre 12 de Zacharie. Il recevra ce pardon des iniquités. C'est ce que Paul aussi rappelle dans le chapitre 11 des Hébreux. Mais... remarquez cela, c'est véritablement, il y a une harmonie magnifique entre toutes les parties de la Bible, l'Épître aux Romains, avec le livre d'Ésaïe, voyez, nous le constatons maintenant. Aucun habitant ne dit « je suis malade », on voudrait bien que ce soit pour maintenant. Eh bien, chers amis, selon ce que je vous ai dit tout à l'heure de l'Église, par rapport au royaume de Dieu, l'Église n'est pas le royaume de Dieu, attention, si, elle doit en avoir les réalités spirituelles, mais elle n'est pas encore, de façon totale, effective, à tous égards, le royaume de Dieu, mais elle en est les prémices. Alors, dans l'Église... Eh bien, le Seigneur voudrait qu'aucun membre de l'Église n'ait à dire « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Si nous nous tenions dans la justification, mes amis, en est une preuve. Il n'y aurait pas besoin d'être malade. Je vous ai dit que dans l'Église primitive, vous voyez, personne n'était malade. Il n'est pas question de guérir les membres de l'Église. Le Seigneur Jésus n'a jamais eu besoin d'être guéri. Les apôtres non plus, rien ne nous signale que Pierre, que Jean ont été malades. Jean est mort à un âge très avancé. Alors, bien sûr, ce qui est dit ici au verset 24 et ce qui précède rejoint toujours le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce que nous appelons maintenant le millénium. Le millénium qui est la manifestation concrète du royaume de Dieu. Mais enfin, dans l'Église, n'est-ce pas, voyez, nous devrions vivre une vie de sanctification qui ferait que le Seigneur nous préserverait de la maladie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et chaque membre de l'Église est le temple. Croyez-vous que le Seigneur désire que son temple est quelque chose de travers, quelque chose qui ne va pas bien? Pas du tout. Il veut un temple qui soit solide. Nous voyons que vraiment la paix est unie à la justice, ce qui est très apparent dans des psaumes, et notamment le psaume 85. Le psaume 85. La paix et la justice vont ensemble. Jésus est roi de Salem, lui aussi roi de paix et roi de justice. Psaume 85, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Il nous parle de paix. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oh, mes amis. C'est un verset à souligner, ça. C'est un verset à souligner. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Qu'est-ce que c'est que la folie? C'est de s'écarter de cet état de justice que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné par sa grâce. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Voyez-vous, il n'y a pas de paix sans la justice. Alors, toute voix discordante aujourd'hui, dans quel que soit le lieu où cette voix s'élève, toute voix discordante parmi nous est une voix à écarter, à ne pas écouter. La justice et la paix s'embrassent. Dans l'Église, on doit veiller avec un soin jaloux à ce que la justice ne soit maintenue par tous, que tous soient effectivement des justes, et que par conséquent, rien, ni dans la vie de chacun, ni dans la vie de l'Église, ne fasse échec à la justice. Jésus est venu parce qu'il a aimé la justice, et il a pu quitter ce monde en disant « Je vous donne ma paix », parce qu'il a aimé la justice et est venu apporter la justice. S'il met la justice dans nos cœurs et nous donne la paix, c'est pour que, par sa force, par la force de sa victoire, qu'évoque d'ailleurs l'apôtre Paul dans notre texte, nous maintenions la justice. Et il n'est pas question d'autre chose. Il ne peut pas être question d'atermoiement. Il n'est pas question d'autre chose. Il est question de justice. Et la justice, c'est l'accomplissement parfait, total, de la volonté de Dieu. C'est ce à quoi il faut s'attacher, toute la volonté de Dieu. Et je vous dis, n'importe quelle parole qui se voudrait restrictive à ce sujet est une parole diabolique. La justice. Si l'Église n'est pas le lieu de la justice, alors l'Église ne se connaît pas. Et l'Église elle-même offense gravement son Seigneur. Il a aimé la justice. Il est venu l'établir dans les cœurs. Il est mort, il a payé, c'est ce que nous rappelle ici Paul, pour que cette justice fût établie dans les cœurs, d'abord, dans les cœurs, au fond des cœurs. C'est ça la justification. Et pour qu'il y ait la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde, il en fait un idéal même. Et puis, enfin, bref, sa paix, nous savons ce qu'elle vaut. Mais même s'il rêve d'une paix entre les hommes ou entre les nations, c'est un idéal. Tandis que là, je vous donne ma paix, c'est une réalité de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui est en conséquence de la justification. En conséquence de ce que Dieu d'abord fait de vous des justes. Et il vous donne la paix. Et là, on pourrait tirer un trait et puis dire « Merci Seigneur, maintenant nous avons compris notre vie chrétienne. » Et que personne ne vienne à nous chanter quoi que ce soit, nous dire « Oui, mais on peut ceci, mais on peut cela. » Fuyez, enfuyez-vous, car c'est ce que l'Éternel nous dit, ce que sa parole nous dit, que nous voulons savoir, et ne savoir que cela. La prédication donc de l'Évangile est un message de retour à la paix, non pas présenté, comme je disais, comme un idéal, mais comme une réalité accomplie en Jésus-Christ. La paix suppose la présence de Christ lui-même. Vous savez qu'il est dit dans les Éphésiens, il est notre paix, il est notre paix. La justice, c'est Jésus en nous. La paix, c'est aussi Jésus en nous. Les deux choses se tiennent, n'est-ce pas? Et c'est la présence de Jésus qui nous vaut la paix. Alors, pour nos amis, chers amis, et nous sommes loin de les regarder avec quelques sentiments, mettons, de méfiance, pas du tout. Les amis qui ne goûtent pas maintenant la paix. Et il y en a parmi nous qui sont venus ici pour retrouver, je pense, la paix avec dans leur cœur, dans leur vie, mais ceux qui jusqu'ici ne l'ont pas connue, qu'ils ne se découragent pas du tout, mais qu'ils sachent que c'est en s'abandonnant à Jésus-Christ, vraiment, quoi qu'on leur dise, quoi qu'ils entendent, ils s'abandonnent à Jésus-Christ et qu'ils croient de toute leur force que Jésus-Christ a remporté pour eux une victoire décisive qui est la leur, alors c'est en croyant de cette manière, en s'approchant de Jésus, en restant liés à lui, qu'ils trouveront cette paix par la victoire qui apparaîtra. La victoire contre le monde et tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient du péché, c'est notre foi. Deux choses sont à confronter, c'est ce qui résulte de notre passage, les dispositions du cœur de l'homme qui est justifié envers Dieu, et cela, alors l'apôtre Paul va le traiter dans son chapitre 8 des Romains. Il va nous parler des dispositions du cœur de l'homme justifié, et nous allons voir que ces dispositions, elles sont nettes, elles sont formelles. Et puis, deuxièmement, disposition de Dieu envers cet homme. Vous voyez, il y a les dispositions de Dieu envers l'homme de foi, et puis les dispositions du cœur de cet homme envers Dieu, n'est-ce pas? Et ces deux choses se trouvent confrontées. Elles sont en présence l'une de l'autre. Les dispositions du cœur de l'homme et les dispositions de Dieu. Et les deux se rejoignent. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait de chaque côté les heureuses du côté de Dieu. Alors là, bien sûr, nous le savons, et c'est dans le texte que je vous ai donné ici, lui, Dieu est fidèle, il ne se renie pas lui-même. Alors, du côté de Dieu, les dispositions de Dieu envers le chrétien, elles sont immuables. Mais, encore est-il, que le chrétien n'en jouira que si lui apporte à Dieu, envers Dieu, des dispositions qui sont celles dont Paul va parler dans son chapitre 8, « Marcher et vivre selon l'esprit et non selon la chair ». Nous allons lire encore, voir encore un peu quelque chose dans notre épître. Je voudrais surtout vous parler d'abord des afflictions, les afflictions au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors, chers amis, une grave méprise s'est répandue dans le monde évangélique, et il faudrait tout de même que la Pentecôte ne fasse pas sien ce mécompte, cette erreur. On a dit que les afflictions, que toutes les afflictions que l'on rencontre dans la vie, eh bien, elles produisent la persévérance. C'est pas vrai. Il y a des afflictions et qui, loin de produire la persévérance, font le contraire, tendent à saper la foi et l'espérance. La foi et l'espérance se tiennent. Voilà encore deux choses qui se tiennent. L'espérance aide la foi et la foi contribue à l'espérance. D'ailleurs, si ce sont des afflictions qui proviennent de nos inconséquences, de nos offenses, de notre manque de constance dans la marche, si ce sont des afflictions que nous nous donnons à nous-mêmes parce que nous sommes faibles, parce que nous ne sommes pas fermes, nous sommes faibles. Eh bien, alors, ces afflictions-là ne produiront que le contraire de la persévérance. Mais il s'agit ici des afflictions que l'on a à éprouver du fait que l'on est témoin du Seigneur. C'est dans le témoignage, c'est dans la vie chrétienne, parce qu'on vit la vie de foi, que l'on est exposé à des afflictions. Dans la même épître, là, l'apôtre Paul nous dira, si nous souffrons avec Christ, comme il a souffert lui-même, des mêmes souffrances, et Christ n'a jamais souffert des conséquences du péché. Alors, mes amis, il ne s'agit pas par conséquent de toutes les afflictions. C'est pas vrai du tout. Il s'agit des afflictions qui nous viennent de notre, précisément, de notre obéissance. Alors, ces afflictions, provenant du combat de la foi, produisent la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Nous avons deux passages qui nous parlent des afflictions dues aux épreuves. C'est le premier passage est dans le chapitre 1 de Jacques, versets 2 à 4, et l'autre dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 également. Mais vous les connaissez, je pense. Je vais maintenant au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Entendez bien ce qui est écrit là, sauvés par sa vie, c'est-à-dire sauvés par les forces nouvelles d'une vie de résurrection qui agit en nous. La vie de Christ doit devenir la nôtre, et il faut qu'elle devienne la nôtre. Christ est ma vie, il faut qu'elle devienne la nôtre. Voilà le résultat d'une vie victorieuse par la foi. Il faut que la vie de Christ soit en nous, et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Celui qui n'a pas en lui la vie de Christ, ou en qui la vie de Christ tend à s'évader parce qu'il marche mal, eh bien celui-là, on ne peut pas dire qu'il est dans la voie vraiment du salut. Il faut être sauvé par la vie. Nous avons été justifiés par son sang, dit le verset 9, par le sang. Donc, la mort du Seigneur a été pour nous l'expiation qui nous vaut le pardon de nos péchés, mais sa résurrection est l'entrée dans une vie qui ne se perd plus. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Cette vie nous est autant utile que la mort du Seigneur. Il faut les deux. Elle nous est indispensable, et il faut, si nous avons la crucifixion, que nous ayons aussi la vie de Christ en nous. Et par conséquent, vous voyez, n'est-ce pas, la sanctification sera d'ailleurs l'œuvre de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur le permette. Amen.